Aujourd'hui, à Rencontre spirituelle, c'est le 15e anniversaire du décès, à Montréal, de Don John Main, bénédictin, prieur de l'ex-monastère bénédictin, évidemment, de Montréal, qui était situé là où est le Centre Unitas, au 1475 ouest de l'avenue des Pins. C'est même là qu'il est mort de cancer, en 1982, le 30 décembre. Je l'avais vu quelques jours plus tôt. Et c'était un homme qui m'avait profondément marqué. C'était un des hommes les plus remarquables que j'ai rencontrés dans ma vie. Il a laissé un héritage immense à travers le monde. Dans une lettre qui nous était adressée par Lawrence Freeman, un bénédictin qui l'accompagnait quand ils sont arrivés à Montréal il y a 20 ans, dont Lawrence Freeman fait remarquer que lorsqu'il s'est joint à Don John Main, donc il y a plus de 20 ans, pour aider les gens dans sa mission à enseigner comment méditer, il a bien pu réaliser jusqu'où pourrait aller cet enseignement, jusqu'où tout cela pourrait s'étendre. Et depuis, dit-il, la mort, il y a 15 ans, de Don John Main, sa foi dans la méditation a pu créer et susciter des communautés d'un bout à l'autre du monde. Aujourd'hui, cette grande famille spirituelle s'agrandit toujours, et chaque semaine, des groupes se réunissent dans 40 pays qui se rencontrent dans des maisons privées, dans des églises, dans des prisons, dans des bureaux, des hôpitaux, en tellement d'endroits où font les gens vivent ou travaillent. Je vais donc vous parler aujourd'hui un peu de ce que j'ai connu de Don John Main, particulièrement en le connaissant et aussi à travers un livre paru il y a quelques années, In the Stillness Dancing, enfin le sous-titre je préfère, The Journey of John Main, le voyage, si vous voulez, de John Main, par Neil McKinty, un Montréalais, ex-jésuite d'ailleurs. C'est Bede Griffith, ce fameux bénédictin qui a établi un ashram en Inde et qui venait d'Angleterre lui aussi, qui dit: In my experience, John Main is the best spiritual guide in the church today. À mon expérience, ou selon moi, disons, John Main est le meilleur guide spirituel dans l'Église aujourd'hui. C'est un très grand témoignage que lui a rendu Don Bede Griffith. John Main a pris ce nom de John en entrant chez les bénédictins. Son vrai nom, c'est Douglas Main. Il était le 4e de 6 enfants. C'est un Irlandais d'origine, il est né à Londres toutefois. Mais ses parents s'étaient mariés dans le Kerry, au sud de l'Irlande, où ils ont eu leur premier enfant. Il a été, somme toute, 25 ans moine seulement. Il est mort jeune finalement. Il était membre à un moment donné de l'armée britannique. Et il est entré à l'abbaye d'Ealing, E-A-L-I-N-G, à Londres, Ealing. Et puis, c'est en 77, je vous raconte en bref sa vie comme ça. Il s'est établi en 77, rue Vendôme, avenue de Vendôme, à Notre-Dame-de-Grâce, pour y fonder un monastère dans une résidence. Et puis, tout de suite, sa façon de parler, je me souviens comme il parlait avec... C'est difficile à décrire, une espèce d'autorité pénétrante, exceptionnelle. Il allait au fond de son propos avec une telle intelligence, il parlait toujours en somme de l'amour. est l'amour qui nous permet de nous rendre compte que l'illusoire, eh bien, c'est bien l'illusoire, et que la réalité, c'est vraiment la réalité, c'est Dieu. Ces homélies à la messe du dimanche, au Avenue des Pins, étaient absolument superbes. Ils nous entraînaient, avant la récitation de la prière finale de la messe, dans une méditation, là, au même endroit où nous étions, pendant une heure. Imaginez une heure de méditation à la fin de la messe. C'est plutôt rare. Je me souviens de la désolation que nous avons tous eue quand il est mort le soir du 30 décembre 1982. Cet homme avait des amis un peu partout dans le monde, et évidemment particulièrement en Irlande, en Angleterre, aux États-Unis, à Washington, où il avait été headmaster, ou directeur, si vous voulez, à l'abbaye Saint-Anselme, où ils ont un collège. Car les bénédictins américains sont souvent enseignants, comme les bénédictins de la Pierre qui vire, de la congrégation de la Pierre qui vire en France. Don John Maine, j'aimerais insister là-dessus dès le début, était surtout un homme bon. C'était un homme très grand, plus de 6 pieds, cheveux gris, petite barbe grise déjà malgré son jeune âge, des yeux bleus d'une très grande bonté, une attention quand on lui parlait que j'ai rarement sentie de la part d'un moine ou d'un prêtre, extraordinairement calme, extrêmement désireux de nous écouter et de faire le bien, je dirais. Il était si bon. Quand il a été à l'abbaye Saint-Anselme de Washington, il y est resté quand même 4 ans ou 5 ans, de 1970 à 1974. Et c'est là qu'il a été frappé, surtout, pourrait-on dire, par l'angoisse des jeunes d'aujourd'hui, ces jeunes surtout qui ignorent, au fond, pour ainsi dire, toute dimension spirituelle. Toute dimension spirituelle au sein du catholicisme. Et il a constaté que les jeunes quittaient plus ou moins l'Église pour se retourner vers le bouddhisme, dans un, ce qu'il appelle plutôt, lui, une espèce d'ego trip. Car d'après lui, les jeunes chrétiens qui vont vers le bouddhisme ne se retrouvent eux-mêmes. Au lieu de trouver Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Ou bien, selon lui aussi, les jeunes restent dans l'Église pour finalement faire comme une grande partie, malheureusement, des catholiques. Ils utilisent la religion comme un jeu esthétique ou cérébral qui semble calmer leur angoisse. Et enfin, ils voyaient d'autres qui perdaient complètement pied et qui se dirigeaient vers les drogues. Cela l'affectait beaucoup. Quand il a quitté Washington et qu'il est arrivé à Londres durant l'été de 1974, il est de plus en plus conscient de la recherche de la dimension spirituelle chez nombre de catholiques qui s'éveillent à cette absence et qui ont besoin de dimension spirituelle. John Maine, ce grand bénédictin qu'on a vu à Montréal avec sa tunique grise et son scapulaire noir, qui faisait peut-être un peu original dans un sens, puisque les bénédictins d'Ealing, je crois, sont habillés entièrement de noir, comme ceux de Saint-Benoît-du-Lac. Mais c'était beau de le voir dans cet uniforme, ce costume gris, et scapulaire noir, capuchon noir. C'était un homme qui aimait, je le dis en passant, et c'est intéressant, il aimait beaucoup la belle musique. Il aimait aussi les très bons livres. Il aime se référer dans ses réflexions aux nuages d'inconnaissance que j'espère vous connaissez, qui a été traduit par Armel Guerne, qui en a su en respecter le contenu, ce livre, le nuage d'inconnaissance, est un des grands textes mystiques de l'histoire de l'Église qui a été écrit en anglais par un anonyme du XIVe siècle, c'est dans la pure lignée de la contemplation obscure. La contemplation obscure là, qui va de Denis l'Aréopagite jusqu'à Thérèse de Lisieux, qu'on a célébré cette année, et qui passe par la docte ignorance, comme on dit, de Nicolas de Cuse, le cardinal Nicolas de Cuse, dont je vous parlerai un jour, et la nuit de Jean de la Croix. Il se réfère aussi à un auteur que j'aime beaucoup, un anglican converti à 23 ans au catholicisme, Hopkins, G. M. Hopkins, un auteur absolument sublime qui a vécu au siècle dernier. Il était né en 44, il est mort en 1867, il avait gagné un premier prix de poésie. C'est le cardinal Newman, dont je vous ai déjà parlé, John Henry Newman, qui l'avait reçu dans l'Église. Puis il est entré chez les Jésuites, il est ordonné prêtre à 33 ans, et il est mort à 44 ans, malheureusement, après avoir enseigné les lettres classiques à l'Université College de Dublin. C'est la typhoïde qui l'a fauché à 44 ans. Hopkins, retenez ce nom, un grand nom, H-O-P-K-I-N-S. C'est donc qu'il fréquentait de grands auteurs et de grands auteurs anglais. Mais il se demandait comment trouver et enseigner la véritable dimension spirituelle aux gens qui sont en quête. Parce que les catholiques, croient-ils, veulent apprendre à prier. Et comment le leur enseigner si ce n'est en les amenant à intérioriser. Intérioriser. Il le dit à un moment donné, j'ai traduit ça de l'anglais, il ne s'agit pas tant de parler à Dieu, mais il s'agit d'une prière qui serait simplement une découverte, une prise de conscience de Dieu en Jésus, qui nous habite, la Trinité nous habite. Il s'agit en fait de participer vraiment à l'expérience du Christ Jésus ressuscité, et comment? Par la prière en l'aimant. Il est arrivé à Montréal en 77 à l'invitation de Mgr Leonard Crawley, qui serait très malade actuellement, dont John Mann et dont Lawrence Freeman, qui lui a succédé en 82-83, ont laissé leur monastère de Londres, donc pour fonder à Montréal ce nouveau monastère. Vous savez qu'en 2 ans sur l'avenue de Vendôme, l'affluence des laïcs de toutes conditions était telle que les moines ont été obligés d'aménager dans une immense maison qui leur a été offerte sur le flanc sud du Mont-Royal, au 1475 avenue des Pins, où est le centre Unitas, comme je vous disais au début. Et à l'automne de 1982, quelque temps avant la mort de Don John Mayne, déjà les groupes de prière se sont répandus, non seulement à Montréal et au Québec, déjà, mais aussi au Canada, en Europe, en Afrique et en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Angleterre et en Irlande. Et on écoute ces cassettes à travers le monde entier. On lit ces livres comme « Word into Silence » et ces « Letters from the Heart ». À l'automne de 79, il a été opéré pour le cancer, donc 3 ans avant sa mort. Mais le cancer est revenu et à l'été 1982... il doit se déplacer en fauteuil roulant. Et malheureusement, il succombe il y a 15 ans aujourd'hui. Faisons une pause avant d'aborder un peu ce qu'il raconte de sa vie et surtout ce qu'il enseigne. C'est en novembre 1976, donc juste avant de fonder à Montréal sur l'avenue Vendôme, que la grande communauté des trappistes de l'abbaye de Gethsemane au Kentucky a invité le père John Mayne à parler de la prière. Pour lui, répondre à l'appel de Jésus, tourner son cœur vers son esprit de façon radicale, ce n'est pas un privilège réservé à une élite religieuse, à des moines, ni à des spécialistes de la prière. Il l'enseignait à des enfants de 12, 13, 15 ans. Je les ai vus faire, moi. Je le voyais enseigner ça aux enfants. C'était extraordinaire, malheureusement en général de petits anglophones, car ils ne parlaient pas français, John Maine. L'enseignement donné par Don John Maine au centre de prière qu'il a fondé au monastère d'Ealing à Londres au début en Angleterre, puis le message qu'il a livré au monde à partir du prieuré bénédictin de Montréal, tout ça dégage une constance, c'est que nous ne pouvons plus désormais nous dérober. Nous dérober à quoi? À ce défi que pose la proclamation de l'Évangile, car nous avons un grand problème dans la propagation de l'Évangile qui n'est presque pas proclamé, les gens n'entendent plus rien. Puis un défi aussi qui vise le fondement même de notre foi dans l'Évangile. Est-ce que nous y croyons vraiment? Puis il y a aussi la qualité de la conviction avec laquelle nous le proclamons. Cette foi et cette conviction ne doivent être enracinées, se doivent d'être enracinées dans une expérience personnelle qui vient de la méditation. Nos contemporains ne croiront jamais ce que nous leur prêchons s'ils n'y perçoivent pas cette authenticité que seule l'expérience peut donner. Le défi que doivent relever les communautés chrétiennes, tous les synodes qui se réunissent, qu'est-ce qu'ils doivent trouver? Que les communautés soient monastiques ou ecclésiastiques, c'est-à-dire des prêtres ou séculières, des laïcs, eh bien le défi consiste à redécouvrir la puissance du don de l'Esprit-Saint. La puissance de ce don que nous avons l'Esprit-Saint en nous. Il est archipuissant, il est Dieu. Il est tout amour. Il s'agit de faire l'expérience pour chacun d'entre nous, de notre propre sainteté, dans une redécouverte de la prière. La communauté mondiale de la méditation chrétienne, c'est ça qu'ils font, à travers le monde. Don John Maine a cherché particulièrement à Montréal à partager une connaissance puis une expérience de la prière qui soit autre chose que de la théorie. Il disait très bien, c'est très intelligent, toute théorie impersonnelle, bien qu'elle puisse être vraisemblable, me semble toujours flotter dans quelque espace plutôt vague. Or, pour la ramener à la portée de tous, là, près sur le plancher des vaches, quoi, j'ajouterais, moi, on doit lui rendre sa dimension personnelle, et c'est alors qu'elle peut être perçue non seulement comme vraisemblable, mais aussi comme vraie. Don John Maine a été initié à la méditation bien avant de devenir moine, c'est assez curieux, hein, alors qu'il faisait partie du corps diplomatique anglais, ou en Malaisie, près de Kuala Lumpur, hein. Son maître était un swami indien dont le temple se trouvait justement aux abords de Kuala Lumpur. Et dès leur première rencontre, à l'occasion d'une mission officielle, sa sérénité et sa sagesse l'ont profondément impressionné. Il a constaté avec joie qu'il était intéressé à échanger de façon plus personnelle. Une fois leurs affaires réglées, alors le swami commence par lui demander s'il était un homme religieux. Alors, ce bon laïc, Douglas Maine, là, qui deviendra John Maine, dit « Je suis catholique ». Alors, il lui demande s'il s'adonne à la méditation. Et le swami lui dit que s'il essayait, et à sa demande, il lui a décrit brièvement ce qu'on appelle les exercices spirituels de Saint Ignace pour les Occidentaux, dont John Maine lui parle de ça, ou Monsieur Douglas Maine. Après une brève pause, il lui a délicatement fait remarquer que sa manière de méditer est fort différente. Pour le swami, le but de la méditation consiste à prendre quoi? À prendre conscience. À prendre conscience de quoi? De l'esprit universel qui habite au plus profond du cœur humain. Et le swami, c'est assez curieux, hein, lui récite ce passage des Upanishads qui est très beau. C'est le livre sacré des hindous. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça un peu, il y a de belles choses là-dedans. Voici le texte. Il contient toute chose, toute œuvre et tout désir, tous les parfums et tous les goûts. Il embrasse l'univers entier et en silence, il aime tout. C'est cet esprit qui est dans mon cœur. c'est Brahman. Alors le Swami lit cet extrait avec une ferveur et une conviction telle que Douglas Main, John Main, le prie de bien vouloir l'accepter comme élève. Le Swami poursuit, « La méditation est une chose très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de méditer. Si vous voulez apprendre, j'essaierai de vous l'enseigner et je vous invite à venir méditer avec moi une fois par semaine. Et avant notre méditation, je vous donnerai quelques indications sur l'important. C'est que nous méditions ensemble. Hein? » C'est ça l'important. Méditer ensemble. C'est assez curieux. Alors, Douglas Main commence à visiter régulièrement le Saint-Homme et lors de leur première rencontre, le Swami lui dit, « Pour méditer, voyez-vous, vous devez devenir intérieurement silencieux et calme. Vous devez vous concentrer. Notre tradition, chez nous, nous enseigne une voie par laquelle nous pouvons arriver à cette tranquillité et à cette concentration. Nous utilisons un mot que l'on appelle un mantra. N'ayez pas peur, c'est pas diabolique. Vous verrez, ça puise ses sources chez Jean Cassien, fondateur du monastère de Saint-Victor à Marseille au IVe siècle. Ça puise ses sources chez les plus grands spirituels chrétiens. C'est la même chose. Il n'y a pas de... N'ayez pas peur avec le mot « mantra ». C'est simplement un mot comme « Jésus, amour ». Jésus, amour. On peut répéter ça et on se plonge. Oui, ça nous distrait de toutes ces réflexions qui nous mènent souvent à peu de choses. Nous utilisons donc un mot que l'on appelle un mantra, dit le Swami. Et pour méditer, vous devez choisir ce mot et le répéter avec foi. Avec amour, ça se répète pas comme ça, n'importe comment. Avec amour. Et sans vous arrêter. Ça ressemble beaucoup à la prière des Russes. Vous savez, le pèlerin russe qui répète constamment, « Seigneur Jésus, prends pitié de moi, pauvre pécheur. Seigneur Jésus, sauveur, prends pitié de moi, pauvre pécheur. » Il répète ça 10 000 fois par jour. Alors il dit, le Swami, je n'ai vraiment rien d'autre à ajouter, et maintenant méditons. Et c'est ainsi que chaque semaine, pendant environ 18 mois, un an et demi, hein, John Main va chez cet homme de Dieu. Et puis, il dit qu'il s'assoit avec lui et médite pendant une demi-heure. Il lui affirme que s'il le veut, s'il veut être sérieux dans sa démarche, il lui faut absolument méditer 2 fois par jour pendant une demi-heure. Et ce, chaque jour de sa vie. Et il dit, méditer seulement lorsque vous venez me voir ne sera que futilité. Méditer une fois par jour ne serait pas sérieux. Oh! Méditer une fois par jour ne serait pas sérieux. Le Swami ajoute, si vous êtes sincère, et si vous voulez enraciner le mantra dans votre cœur, vous devez vous engager à méditer une demi-heure le matin, avant d'entreprendre toute autre chose, et une autre demi-heure dans la soirée. Pendant votre méditation, ne laissez naître ni pensée, ni mot, ni image dans votre esprit. L'unique son à percevoir doit être celui de votre mantra, de votre mot. Le mantra est comme une harmonique. Et pendant que cette harmonique vibre en nous-mêmes, une résonance commence à se régler. Et cette résonance nous fait cheminer vers la plénitude de l'être et nous commençons à être conscients de l'unité profonde de notre être. Et par la suite, bien l'harmonique crée, quoi? Une résonance entre soi et toute créature, entre soi et la création entière, puis, et là c'est important, une unité entre soi et son créateur. Alors souvent, le Père Main demande au Swami, combien de temps me faudra-t-il? Combien de temps devrais-je investir pour atteindre la lumière? Mais le Swami ignore sa question. Ou encore, il lui répond avec des mots qui résument tout son enseignement et toute sa sagesse. « Dites votre mantra. » Et c'est au cours de ces 18 mois, l'essentiel de ce qu'il a à lui communiquer. « Dites votre mantra. » Et vous allez voir comment tout ça va s'approfondir. Tout à l'heure, dans la prochaine demi-heure, c'est d'une grande richesse et d'une très grande beauté. Et s'appuie ses sources chez les plus grands auteurs spirituels chrétiens. Son rayonnement mondial vaut qu'on s'y penche, c'est rare que quelqu'un qui a vécu à Montréal, ne serait-ce que 5 ans, a un rayonnement spirituel aussi mondial. Et lorsque John Main revient en Europe après avoir rencontré ce Swami, bien, il n'est pas bénédictin encore, enfin, pour enseigner le droit au collège Trinity de Dublin, bien des années avant les Beatles puis la découverte de la méditation transcendantale. Il ne trouve personne qui connaisse la méditation de la façon dont il la comprend désormais. Il essaie d'aborder le sujet avec des amis prêtres, mais à sa grande surprise, ces questions sont la plupart du temps reçues avec une grande méfiance, non, c'est pas avec une certaine hostilité. Et d'après ce qu'il pouvait comprendre, ses amis s'adonnent avec beaucoup de confiance à une méthode de méditation inspirée des jésuites. Et les plus sérieux se préparent à la prière mentale du matin en révisant de façon systématique là, une liste de sujets établis d'avance. Cette méthode leur apparaît plutôt ésotérique, passablement compliquée. C'est-à-dire, cette méthode lui apparaît, pardon, plutôt ésotérique et passablement compliqué. Et l'ouvrage qui semble avoir le plus influencé ces hommes auxquels il s'adresse, les anciens confrères, c'est L'âme de l'apôtre de Don Chautard. C'est un livre quand même intéressant. Je l'ai dans ma bibliothèque. C'est intéressant. Un jour, je vous parlerai probablement de Don Chautard. Hein, parce qu'il a été largement recommandé dans les années 30. Et ce qui frappe dans ce livre, pour lui, John Maine, c'est la complexité. Or, en ce qui le concerne, ses méditations du matin et du soir lui apportent beaucoup de joie et d'enthousiasme. Il éprouve de plus en plus d'attrait pour la méditation puis les périodes qu'il y consacre, matin, soir. Tout ça, ça constitue la trame sur laquelle il édifie ses journées. Et à cette époque, en 1958, un de ses neveux, un des enfants de sa sœur, tombe gravement malade et meurt. Ça, la mort de cet enfant, ça a un effet considérable sur lui. Il se retrouve là donc confronté aux grandes questions de la vie et de la mort. Puis la finalité de l'existence. Pourquoi sommes-nous sur cette terre? J'ai déjà fait des émissions. Pourquoi vivre, etc.? J'en ai donc fait de ces émissions. Et cela l'amène naturellement à faire le bilan de sa vie. Il se rend compte avec étonnement que ce qui est devenu le plus important de sa vie, c'est justement ses méditations quotidiennes. Alors il prend la décision de baser sa vie sur la méditation, et pour y parvenir, ben de devenir moine. Or, au cours de sa formation de vie monastique chez les bénédictins, on lui enseigne une autre méthode de méditation qu'il accepte par obéissance, et c'est une exigence pour toute novice bénédictin. Ça. Cette nouvelle méthode, qui est appelée la méditation discursive, hein, vous voyez le genre. Ça n'est qu'une succession d'actes d'adoration, ensuite de contrition, d'action de grâce, c'est bien ça, et puis finalement de supplication. Tout ça est allé sur une demi-heure. C'est une demi-heure de prière basée en grande partie, si l'on peut dire, de paroles adressées dans son cœur, avec tendresse à Dieu, et de pensées aussi de l'intellect, des pensées qui viennent de notre intellect au sujet de Dieu. Quand Alexander Pope écrit « Tout ce qui est bon, tout ce qui est bon », il exprime bien l'espèce de fatalisme dans lequel il accepte cette situation. Alors, il attend. Il remet à plus tard le moment de faire face au fait que cette nouvelle forme de prière le laisse, lui, John Maine, de plus en plus insatisfait. Bien entendu, à mesure que ses occupations de moine augmentent, la nécessité de prendre une décision se fait de moins en moins sentir. Il s'éloigne de ce qu'il a appris à Kuala Lumpur. Cette période de sa vie a été une grâce, sans le savoir. Hein? Car sans le savoir, son maître de noviciat avait entrepris de lui apprendre à vivre le détachement de ce qui constitue le centre même de sa vie. Il abandonne donc cette pratique qui lui est devenue si importante et sur laquelle il va chercher à fonder sa vie. À la place, il apprend à édifier sa vie sur Dieu lui-même. Les années qui suivent sont très pauvres en termes de développement spirituel, mais il reste fidèle à l'obéissance. L'obéissance, oui, l'obéissance qui est le fondement de sa vie de moine. On n'en parle plus de l'obéissance, mais voilà un moine qui en parle. Il croit qu'au fond de son être, il y a cette conviction plus ou moins consciente que Dieu ne le laissera pas errer indéfiniment et qu'il le ramènera sur le bon chemin. Et l'important, c'est de revenir à la méditation selon les voies de Dieu et non selon les siennes propres. Et au cours de cette période, il qualifie de période de régression, cette période. Tout semble vouloir l'empêcher de revenir à une vie de prière plus stimulante. Alors, il devient directeur du Collège Saint-Anselme à Washington, comme je vous ai dit, puis c'est alors qu'il est plongé dans la période la plus active de sa vie. Et c'est là qu'il se rend compte qu'il faut vraiment faire quelque chose. Alors, il découvre le sens de l'émerveillement face à sa vocation monastique que des années de suractivité ont dissipé. Il comprend de façon vague un bonjour, bien sûr, toute la simplicité et la réalité de la prière. Et de plus, il y découvre une connaissance intuitive de la notion du mantra dont je vous ai parlé. Dans les passages traitant des actes et des oraisons jaculatoires, vous savez, les oraisons jaculatoires sont de courtes, ferventes prières qu'on récitait très souvent autrefois. Sacré-Cœur de Jésus, ayez pitié de nous. C'était une oraison jaculatoire très, très classique, mais on peut en faire d'autres plus, aussi belles et différentes. Et cet auteur écrit avec assurance et la persuasion d'un homme qui a connu beaucoup de ses détours remplis d'embûches, avant d'être finalement ramené sur la bonne piste, c'est Baker et Cassien. Ainsi, il affirme, il est certain que les prières vocales, si prolongées qu'elles soient, et récitées dans la plus grande solitude possible, ne produiront jamais cet effet de recueillement. Là où le véritable esprit de la prière contemplative est inconnu, il faut avoir un véritable esprit de prière contemplative. Il ajoute, or, cette ignorance s'est rencontrée même dans les ordres religieux de la plus haute spiritualité et de la plus grande austérité. Ainsi, nous constatons que Germain et Cassien, auteurs du IVe siècle, quoique entraînés par de longues années de vie cénobitique, de vie monastique, de vie en groupe, si vous voulez, ont été étonnés lorsqu'ils ont entendu les saints ermites discourir sur la prière purement spirituelle dégagée de toute image. Dégagée de toute image. Et donc John Mayne est frappé par le fait que Baker, qui a écrit le texte que je viens de vous lire, rappelle fréquemment combien Saint Benoît citait les conférences de Cassien. C'est dans les conférences de Cassien que l'on trouve qu'il faut utiliser un mot. Et Cassien y insiste avec insistance, et Saint Benoît aussi. Alors, ça porte John Mayne à relire de façon sérieuse les conférences de Jean Cassien. C'est avec surprise qu'il a découvert dans la 10e conférence, je vous le signale, si vous avez les conférences de Jean Cassien, c'est dans la 10e conférence, il y a un passage, c'est page 91 dans certaines éditions, ça, donc c'est pas très loin du début, passage sur l'usage d'une seule courte phrase pour parvenir à la quiétude. Je répète, une seule courte phrase pour parvenir à la quiétude qui mène à la prière. Voici ce texte clé de Jean Cassien. « Jusqu'à ce que l'âme ait acquis la fermeté de refuser et de rejeter loin de soi les richesses et les amples avoirs, les amples possessions, si vous voulez, de toutes sortes de pensées, et qu'elle se restreigne ainsi à la pauvreté de cet humble verset. » Se maintenir dans un simple verset. « Seigneur Jésus, je vous aime. » Ça peut être ça. Ça peut être « Ô Trinité Sainte que j'adore. » Vous vous centrez sur l'essentiel. Et ces paroles de Cassien, de même que le chapitre 10 de la même conférence qui décrit la prière continuelle, le ramène en terre inconnue. Puis il reprend la pratique du mantra. Et l'histoire de Jean Cassien et de son ami Germain, comme du reste l'enseignement de la sagesse contenue dans les conférences, étonne. Oui, ça étonne par leur pertinence pour notre monde contemporain. Germain et Cassien, écoutez, celui qui les a formés avec ravissement, Leur cœur était enflammé quand ils ont appris comment prier, eux. Alors que leur maître leur parlait de la prière continuelle, leur réaction était immédiate. Ils ont dit, dans ce temps-là, il y a déjà 15 siècles et davantage, Voilà ce que nous devons faire. Nous devons, nous aussi, dans notre vie personnelle, pratiquer ce recueillement continuel dans la sainte présence de Dieu. Nous devons accomplir à notre vie ce que ce saint homme a réalisé dans la sienne. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à des sommets de méditation grâce à ce moine, ce saint abbé Isaac. Isaac disait, « Je crois que je n'aurai pas beaucoup de peine pour autant que le Seigneur me servira de guide à vous introduire depuis le vestibule, où déjà vous promenez vos pas incertains, jusqu'au fond du sanctuaire. On est bien près de savoir, lorsqu'on voit au juste où porter ses recherches, c'est toucher à la science que de commencer à se rendre compte de ce qu'on ignore. » Et on voit ça aussi chez d'autres moines de l'époque. Et tout ça est d'une très, très, très grande richesse. Alors, Don John Maine, dans une conférence qu'il a donnée il y a 20 ans, disait « Dieu est notre Créateur et notre Père. Jésus est notre Rédempteur et notre Frère. L'Esprit Saint habite en nous de telle sorte que chacun est littéralement un temple de sainteté. Avez-vous compris que nous sommes tous, oh vous le savez la plupart d'entre vous, hein, nous sommes des temples de sainteté. Dieu nous habite, la Trinité est là. Or, dit Don John Maine, la méditation est tout simplement la démarche grâce à laquelle chacun de nous s'ouvre à la réalité de ces vérités. Car ce sont des vérités fondamentales qui rendent tout le reste illusoire. Toutes nos petites possessions que nous devrons laisser quand nous allons mourir, comme un certain homme riche qui vient de mourir et qui possédait 7,5 milliards a tout laissé. Il ne lui reste plus rien. Il est réduit en cendres. Don John Maine disait que pendant nos périodes de méditation quotidienne, matin et soir, nous prenons nos distances avec l'éphémère, le superficiel, tout ce qui est illusoire. Et nous nous ouvrons pleinement à la grandeur et à la merveille de Dieu, le présent éternel. Et de cette façon, nous découvrons notre propre grandeur et nous libérons en même temps notre capacité d'émerveillement. Émerveillement, c'est le mot clé. Quand on a l'émerveillement, tout est transformé au fond de tout notre être. Nous pourrions également dire, dit John Maine, qu'en découvrant notre propre valeur, nous découvrons Dieu, le Créateur de tout ce qui a de la valeur. C'est lui qui nous a fait. Et à l'instar de Hopkins, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Gerard Manley Hopkins, nous découvrons que le monde est plein de la grandeur de Dieu. C'est ce que disait Hopkins. Le mot « libéré » résume l'essentiel de ce qu'il a tout exprimé, John Maine. La méditation est un processus de libération. Nous devons libérer ces vérités dans nos vies. Et comme chrétiens, nous avons, semble-t-il, souvent fondé notre existence sur des bases purement notionnelles, des idées. Si bien que le cadre de notre réponse à Dieu s'en est trouvé très réduit, trop exclusivement rationnel, la raison, la raison, la raison, hein? Un simple recueil de formules et de credos que l'on charrie avec soi, dit John Maine. Mais la prière, par la prière méditative, nous nous préparons à l'expérience pleine et entière. De quoi? De ce qu'il y a de plus précieux? De la présence intime de Jésus en nous, dit John Maine. À la présence personnelle du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Et la plénitude de la vie de la très sainte Trinité au plus profond de notre être. Voilà le genre de proposition que nous devons libérer au fond de notre cœur, ainsi dégagée de la formulation théologique ou rhétorique. Elle devient vivante, vivante, enrichissante et capable de transformer notre vie au plus profond de notre être, selon les termes mêmes de saint Pierre, le premier pape. En méditant, nous apprenons à être attentifs à la présence personnelle de Jésus en nous, et nous l'apprenons en commençant d'abord par apprendre à éloigner les distractions, à demeurer paisible et à goûter pleinement la merveille de notre propre création. Nous sommes alors capables de chanter avec le psalmiste, d'un cœur plein de joie, hein, je te rends grâce pour la merveille que je suis. Et John Maine disait aussi, je voudrais insister sur une vérité qui nous échappe souvent dans la réalité de notre vie quotidienne, cette vie de tous les jours trop souvent agitée. C'est une vérité fondamentale, que nous sommes tous des créatures de Dieu, et que nous sommes d'origine divine. Voilà un énoncé si rudimentaire de notre foi, souvent si bien appris dès notre jeune âge, que nous avons tendance à ne pas en prendre pleinement conscience, à ne jamais le dégager de son abstraction, afin de lui permettre de servir sa véritable fin, qui est d'être une source d'énergie dans notre vie. Il se réfère à l'Épître aux Hébreux, ce beau texte. Ainsi donc, laissons l'enseignement élémentaire sur le Christ pour nous élever à une perfection d'adulte. Oui, c'est déjà dans le Nouveau Testament. Nous n'allons pas, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous n'allons pas remettre en cause notre foi en Dieu. Voilà ce que nous allons faire, si du moins Dieu le permet. Or, cette vérité, elle seule, pourrait suffire à nous maintenir dans une attitude d'admiration pour notre vie, dit John Maine. Cependant, la révélation de Jésus, notre Rédempteur, notre frère, nous apprend non seulement notre origine divine, mais aussi que nous participons et que nous sommes appelés à participer à la nature et à l'être même de Dieu. Et par conséquent, nous avons tous et chacun, d'une manière unique, une importance et une valeur infinie. Vous rendez-vous compte? Nous sommes tous d'une importance et d'une valeur infinie par Dieu. Non seulement avons-nous été créés par Dieu à partir de rien, mais nous avons aussi été rachetés, libérés, aimés par son Fils Jésus. Et comme garantie permanente de notre origine, ainsi que de notre importance et de notre valeur unique, Jésus a envoyé son Esprit. Oui, nous avons son Esprit. Et John Maine dit, afin qu'il habite en nous, faisant de nous tous des temples de sainteté, il y revient encore. Dieu lui-même, il insiste, hein, Dieu lui-même demeure en nous. Il aime bien revenir à Jean Cassien, dit dans la prière, nous recherchons la voie de la simplicité. Or, mon expérience personnelle m'a amené à découvrir que c'est justement là la voie du mantra. Écoutons à nouveau Jean Cassien, je vous rappelle, qui est mort en 433, Jean Cassien. Et c'est un écrivain latin, ascétique. Hein? C'est lui qui a fondé le monastère Saint-Victor à Marseille. Aussi le texte de la 10e conférence. Un petit texte. Oui, que l'âme retienne incessamment cette parole, ou si vous voulez, ce mantra, jusqu'à ce que, à force de le redire, et méditer sans trêve. Cette parole est acquise la fermeté de refuser et rejeter loin de soi les richesses et les amples avoirs de toutes sortes de pensées, et que cette parole se restreigne ainsi à la pauvreté de cet humble verset. Oui, il s'agit de faire de notre âme une âme pauvre, qui passe à travers la beauté d'un verset comme « Jésus, mon amour, ô Trinité sainte que j'adore », une âme qui est toute d'adoration. Il dit « Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a un réel danger pour les religieux et en fait pour tous les êtres humains de concevoir sa vie comme devant se conformer à des modèles préétablis plutôt que de l'envisager comme la consécration de toute sa personne à une réalité qui en vaut la peine. Avec le souci d'y accorder une attention de plus en plus grande et un engagement toujours plus sérieux. Le danger qui nous menace tous, nous, hommes religieux, et les laïcs, c'est la facilité avec laquelle nous pouvons nous satisfaire des formules toutes faites. Nous nous conduisons un peu comme l'homme politique qui se contente de parler de liberté, de fraternité, d'égalité. Et le résultat de cette approche trop exclusivement intellectuelle de la vie est que bien souvent, nous ne sommes qu'à moitié vivants. Et donc John Maine ajoute, ou encore, pour le dire d'une façon plus directe, Nous sommes à moitié morts. Cela rappelle les femmes de Canterbury dans la tragédie de T.S. Eliot, Murder in the Cathedral, dont je vous ai parlé hier, Meurtre dans la cathédrale, puisque mon émission hier était consacrée à Saint Thomas Becket, qui a été tué justement dans la cathédrale. Voici ce texte. C'est le texte des femmes de Canterbury, là. Et pendant ce temps, nous avons continué à vivre, vivantes et partiellement vivantes, tâchant de rassembler les morceaux. Nos vies sont souvent faites que de ça. On rassemble des morceaux. Oh, on continue à vivre, partiellement vivant. Alors, quelle est la voie à suivre pour aller de l'avant, dit John Mayne. Aussi curieux et paradoxal que cela puisse paraître, c'est le chemin de la pauvreté. Et il dit à un moment donné des choses extraordinaires sur la méditation et la pauvreté qu'elle requiert. Ne sont en rien des formes de rejet de soi, dit-il. Et il aboutit, à un moment donné, au nuage d'inconnaissance, ce livre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nuage d'inconnaissance, qui est un des plus beaux livres que je connaisse. Il dit, mais cela démontre que ce à quoi nous renonçons dans la prière, c'est essentiellement à la non-réalité. Car la non-réalité, c'est tout ce qui nous semble réel. Nos possessions, notre bateau, nos ci, nos ça, notre auto. C'est la non-réalité. Et la souffrance du dépouillement, dit John Mayne, sera proportionnelle à l'importance que nous aurons accordée à la non-réalité, dans la mesure, écoutez bien, où nous aurons pris nos illusions pour la réalité. Et dans la prière, nous nous dépouillons de l'illusion de l'ego. Nous y parvenons par un acte de foi soutenu, en nous décentrant de l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes pour nous concentrer sur le véritable soi. Et qu'est-ce que c'est, ça, le véritable soi? Créé par Dieu? Racheté par Jésus? Et temple du Saint-Esprit, c'est ça, le véritable soi. Il ajoute enfin des choses si belles à la fin de sa conférence. Tout en tenant compte des réflexions que je viens de faire, je crois qu'au fond de nous-mêmes, nous avons tous l'intuition du sens que l'on prête aux paroles de Jésus lorsqu'il nous invite à perdre notre vie pour la trouver. Dans notre cœur, nous ressentons ce besoin de simplicité absolue. Simplicité absolue. Où on rencontre Dieu. La documentation sur John Mayne est très vaste. Il y a de très beaux livres. Je vous rappelle « The Present Christ, Further Steps in Meditation » de John Mayne. Et puis « Community of Love » encore de John Mayne. « Letters from the Heart » John Mayne. Vous pouvez trouver ça à l'ancien monastère bénédictin qui est au 1475 Avenue des Pins, qui est devenu un centre de méditation, mais qui dépend entièrement de l'Église catholique et de quelques autres églises qui se sont unies à nous, et où il y a des conférences merveilleuses et toutes sortes de choses. Par contre, la communauté mondiale de la méditation chrétienne, établie par Don John Mayne, pour communiquer et enseigner la méditation, justement transmise par l'enseignement de Don John Mayne dans la tradition chrétienne, et dans l'esprit de servir l'unité de tous, eh bien, elle existe. Elle existe à Laval pour les Canadiens français, pour les Québécois.